Chapitre 6. L'aménagement de Ganymède. Rolf Vanderberg fut l'homme qu'il fallait au moment opportun. Aucune autre combinaison n'aurait marché. C'est d'ailleurs ainsi que presque toute l'histoire se fait, naturellement. Il était l'homme qu'il fallait en sa qualité de réfugié africaneur de la deuxième génération et de géologue. Les deux facteurs étaient également importants. Il se trouvait là où il le fallait, c'est-à-dire sur la plus grande des lunes jupitériennes, la troisième dans l'ordre des distances à Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le moment n'était pas si critique, car l'information stationnait depuis près de 10 ans dans les banques de mémoire, mais Vanderberg ne la découvrit pas avant 2057. Même alors, il lui fallut encore 1 an pour se convaincre qu'il n'était pas fou. Et ce ne fut qu'en 2059 qu'il demanda discrètement les archives originales pour que personne ne puisse reproduire sa découverte. À ce moment-là seulement, il put sans risque consacrer toute son attention sur le problème principal. Que faire maintenant? Tout avait commencé, comme c'est souvent le cas, par une observation apparemment banale dans un domaine qui ne concernait même pas directement Vanderberg. Sa mission, comme membre de la Planetary Engineering Task Force, était d'inventorier et de cataloguer les ressources naturelles de Ganymède. Il n'avait pas à s'occuper du satellite interdit voisin. Mais Europe était une énigme que personne, moins encore sa voisine immédiate, ne pouvait ignorer ou négliger longtemps. Tous les 7 jours, elle passait entre Ganymède et le brillant mini-soleil qui était devenu Jupiter, provoquant des éclipses qui duraient parfois jusqu'à 12 minutes. Quand elle passait au plus près, elle paraissait légèrement plus petite que la Lune vue de la Terre, mais rapetissait au quart de cette taille quand elle était de l'autre côté de son orbite. Les éclipses étaient souvent spectaculaires. Juste avant de glisser entre Ganymède et Lucifer, Europe se transformait en un disque noir menaçant bordé d'une frange de feu rouge carmin, alors que la lumière du nouveau Soleil était réfractée à travers l'atmosphère qu'il avait contribué à créer. En moins d'une vie humaine, Europe s'était métamorphosée. La couche de glace de son hémisphère faisant perpétuellement face à Lucifer avait fondu pour former le deuxième océan du système solaire. Pendant 10 ans, il avait bouillonné et écumé dans le vide qui le surplombait, jusqu'à ce qu'un équilibre fût atteint. Maintenant, Europe possédait une couche atmosphérique mince mais respirable, pas pour les êtres humains néanmoins, de vapeur d'eau, d'hydrogène sulfuré, de dioxyde de carbone et de soufre, d'azote et de divers gaz rares. Bien que la partie du satellite appelée Hathor nocturne fût gelée en permanence, une superficie de la grandeur de l'Afrique possédait maintenant un climat tempéré, de l'eau liquide et quelques îles dispersées. Telle était presque la totalité des observations qu'avaient pu transmettre les télescopes placés en orbite autour de la Terre. Lorsque la première grande expédition fut lancée vers les lunes galiléennes, en 2028, Europe s'était déjà voilée d'une couverture de nuages permanente. Des sondages radars prudents révélèrent peu de choses en dehors d'un océan lisse sur une face et de glace également lisse sur l'autre. Europe conservait sa réputation de territoire le plus plat du système solaire. 10 ans plus tard, ce n'était plus vrai. Quelque chose de fantastique était arrivé à Europe. Une montagne solitaire, presque aussi élevée que l'Everest, avait à présent surgi de la glace dans la zone crépusculaire. On présumait qu'une quelconque activité volcanique, comme celle qui se produisait sans cesse chez sa voisine Io, avait projeté vers le ciel cette masse de matière. L'événement aurait pu être déclenché par le flot de chaleur accru provenant de Lucifer. Mais cette explication évidente posait des problèmes. Le mont Zeus formait une pyramide irrégulière au lieu du cône volcanique habituel et les balayages au radar n'indiquaient aucune des coulées de lave caractéristiques. Quelques médiocres photographies obtenues grâce à des télescopes depuis Ganymède, pendant une dispersion momentanée des nuages, donnaient à penser qu'il était en glace, comme le paysage gelé qui l'entourait. Quelle qu'en fût l'explication, la subite apparition du mont Zeus avait apparemment traumatisé le monde qu'il dominait, car le dallage irrégulier formé par les glaces flottantes de la face nocturne avait complètement changé. Un savant non conformiste avait avancé l'hypothèse que le mont Zeus serait un iceberg cosmique, un fragment de comète tombé de l'espace sur Europe. La surface tourmentée de Callisto prouvait amplement que de tels bombardements s'étaient déjà produits dans un lointain passé. Cette hypothèse provoquait l'inquiétude des colons de Ganymède, qui avaient déjà bien assez de problèmes. Ils furent très soulagés quand Vandenberg réfuta catégoriquement l'hypothèse. Une masse de glace de cette importance se serait brisée à l'impact. Et sinon, la gravité d'Europe, malgré sa modestie, aurait vite provoqué son effondrement. Les mesures prises au radar révélaient que le mont Zeus s'enfonçait régulièrement et que sa forme générale ne changeait pas du tout. Ce n'était pas de la glace. Bien sûr, le problème aurait pu être résolu par l'envoi d'une sonde à travers les nuages d'Europe, mais la curiosité sur ce qu'il pouvait y avoir sous ce plafond perpétuellement bas était considérablement freinée par le souvenir du dernier message transmis par le vaisseau spatial Discovery juste avant sa destruction. « Tous ces mondes sont à vous, sauf Europe. N'essayez pas de vous y poser. » L'interprétation de ce message avait donné lieu à d'interminables discussions. Est-ce que les mots « vous y poser » s'appliquaient aux robots-sondes ou uniquement aux vaisseaux habités ? Et au survol, habité ou non, ou au ballon planant dans la haute atmosphère ? Les savants auraient bien aimé le savoir, mais le grand public était inquiet. Une puissance capable de faire exploser la plus énorme planète du système solaire ne devait pas être traitée à la légère. Et il faudrait des siècles pour explorer et exploiter Io, Ganymède, Callisto et les dizaines de satellites mineurs. Europe pouvait attendre. Plus d'une fois, par conséquent, Vandenberg avait été prié de ne pas perdre un temps précieux en recherche sans importance pratique, alors qu'il y avait tant à faire sur Ganymède. Où pourrons-nous trouver du carbone, du phosphore, des nitrates pour les fermes hydroponiques ? L'escarpement Barnard est-il stable ? Y a-t-il un risque d'autres glissements de terrain en Phrygie ? Et ainsi de suite. Mais il avait hérité de ses ancêtres Boers une réputation bien méritée d'obstination. Même en travaillant à ses nombreux projets, il continuait de regarder Europe par-dessus son épaule. Et un jour, pendant quelques heures, un violent coup de vent dégagea le ciel au-dessus du mont Zeus.